Je vois des têtes que je connais aussi, c'est cool.
Je suis vraiment très très content d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas si les gens de Sarrebourg, c'est pareil, parce qu'ils se disent on a fait une heure de déplacement et puis ils écoutent la personne qu'ils ont l'habitude d'entendre. Mais on invitera Jean-Haut. Hein. Jean-Haut, il faut qu'on prenne une invitation pour que tu viennes prêcher chez nous aussi. Moi, je suis très heureux parce que pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, parce que je dois beaucoup à cette église. C'est dans cette église que j'ai rencontré ma femme. Bon, ça, c'est déjà peut-être le truc le plus important. Ça fait maintenant 10 ans, plus de 10 ans qu'on est mariés, 12 ans qu'on est mariés. Ouais. Mais j'ai aussi reçu beaucoup de personnes de cette église. Il y a des gens qui m'ont hébergé pendant plusieurs mois de cette église. Voilà, des gens qui nous ont accompagnés aussi. Et forcément, voilà, c'est toujours avec un attachement particulier que je reviens dans cette église. Et puis, on a encore des attaches familiales, puisque ma femme et Sylviane sont sœurs. Donc, j'ai aussi mes neveux et nièces voilà, qui sont là aussi et que j'ai le privilège de connaître aussi. Et je suis réjoui parce que je vois aussi plein de gens que je ne connais pas. Et ça veut dire que du coup, cette église, elle est vivante et qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent. Et ça, c'est un bon signe. Je suis heureux que voilà, votre église puisse continuer à briller à Vendeuvre et sur Nancy. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, on vient donc de l'église de Sarrebourg. On est peut-être, je ne sais pas, une dizaine à avoir fait le déplacement ce matin. Je suis du coup, je sers l'église de Sarrebourg en tant que président de cette assemblée. Et on fait partie de la même union d'église que vous. Voilà, donc on fait partie de l'union Perspective. Et on travaille avec Pascal Windler, qui est notre pasteur, et aussi Victor Magnus, pardon. Et on travaille en réseau avec Saverne. Donc on est en train de construire quelque chose avec cette église-là. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas là, Victor et Pascal, parce qu'ils sont du coup engagés dans leurs autres églises. Et donc, voilà, c'est moi qui fais office de prédicateur pour vous ce matin, du coup. Voilà pour les présentations. Alors, on va continuer un peu la thématique que Jean-Georges... Jean-Georges, il n'est plus là maintenant, il n'est plus... Jean-Haut. Que Jean-Haut a évoqué ce matin un petit peu, quand on a parlé de Messie et d'espérance. Voilà, et en début d'année scolaire, j'ai relu Jean, l'évangile de Jean. Et ce n'est pas l'évangile qui m'attire le plus. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec les évangiles. Mais Jean, je trouve qu'il est un peu bizarre. Quoi. Jean, déjà quand on lit le premier chapitre, voilà, au commencement était la parole. Enfin, on se dit, bah, il a quelque part, c'est beaucoup d'images. Et ce n'est pas très accessible. Marc, par exemple, c'est beaucoup plus, on arrive beaucoup plus à s'y retrouver. Mais en le relisant, cet évangile, j'ai vraiment été frappé par la richesse de ce Jésus qui n'est jamais là où on l'attend. Toujours... Quand il dit quelque chose, voilà, ça bouscule ceux qui l'écoutent. Alors, j'ai appris que le mot « gênance », il était entré officiellement dans le dictionnaire en 2023. Voilà, donc, je peux officiellement l'utiliser. J'avoue que je l'utilise jamais, hein, mais en tout cas, j'ai entendu ça à la radio, que « gênance » était officiellement autorisé maintenant. Et donc, je pense que Jésus, il devait créer cette gênance. Donc, « gênance », ça veut dire qu'il crée un gêne hein, auprès de ses interlocuteurs. Et en lisant les rencontres que Jésus fait, je me disais souvent, mais Jésus, trop fort. Quoi. Jésus, il a vraiment le mot, il rencontre les gens là où ils ont besoin d'être. Et voilà, vraiment, Jésus, trop fort. Et un de ces trop forts moments en lisant Jean, c'est l'histoire où Jésus rencontre une femme samaritaine. Et c'est le texte que je vous propose de regarder ensemble ce matin. Alors, je ne sais pas trop si c'est dans vos habitudes. J'espère que ça ne va pas créer un moment de gênance. Mais je vous propose de vous lever pour écouter la parole de Dieu. Parce que déjà, ça nous rappelle que la parole de Dieu, c'est spécial. Voilà, finalement, ce que je dis, moi, ce n'est pas trop important. Ce qui est important, c'est la Bible. Et puis aussi, la parole de Dieu, elle est active. On n'est pas seulement assis à écouter, à engurgiter, mais elle nous appelle à une réponse. Elle nous appelle à être actif. Alors, je vais lire à partir, donc Jean 4, à partir du verset 5. Normalement, il faut que je passe ça. Hop. Voilà, Jean. Il arrive près d'une ville, donc il c'est Jésus. Jésus arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar, ou Sicar, je ne sais pas, ça dépend si en Alsace ou pas. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond, « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, « Donne-moi à boire. » Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, ont bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. »
Je suis versé. Ouais.
La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de le dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui répond, « Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Voyez, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son Esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit-Saint, et comme le Fils l'a montré. » La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » Magnifique parole. J'ai pensé à ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette... C'est Obama, il a fait un discours... Et à la fin, il fait ce qu'on appelle « drop the mic ». Il a laissé tomber le micro pour dire « voilà, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire ». C'est un peu classe, quoi. Les rappeurs, ils font ça, quoi. Je me suis dit « Jésus, il aurait pu faire ça après avoir dit, quoi ». Quand la femme lui dit « mais si le Messie va venir, il va tout nous expliquer ». Mais si, c'est moi, claque. Trop fort, Jésus. Trop fort. Je pense que je ne vous apprends rien en disant que l'eau... est essentiel à la vie. Alors j'ai vu le record du monde sans manger, il est de 382 jours. Pas mal, hein ? Pas mal. Donc c'est un Écossais de 27 ans, en 1965, alors évidemment il souffrait d'obésité, hein, et donc c'est bon, c'est pas un truc normal. Hein, voilà, il est passé de 207 kilos à 81 kilos, donc c'est de 382 jours. Bon, ça, évidemment, c'est extrême, hein, voilà, on n'est pas dans ce genre-là. On dit qu'en moyenne, on peut vivre à peu près 30 jours sans manger et 3 jours sans boire. Donc voilà, l'eau est essentielle à la vie. Et cette vérité matérielle, c'est aussi une vérité spirituelle. On a besoin d'eau vive pour notre âme. Et l'eau, c'est un symbole dans la Bible qui est fort, voilà. Il est souvent utilisé. Je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, quand le peuple hébreu est dans le désert... Voilà, Dieu va demander à Moïse de frapper le rocher, il y a de l'eau vive qui va sortir pour abreuver le peuple qui a soif. Dans Jérémie 2, Dieu dit « Mon peuple a commis une double faute, il m'a abandonné, moi la source d'eau fraîche, moi la source d'eau vive qui donne la vie. » Et il a creusé des citernes, mais ces citernes sont fendues et ne retiennent pas l'eau. Un autre exemple d'eau vive. Et puis on trouve dans Ézéchiel aussi, Ézéchiel c'est un prophète qui a une vision du temple. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Ézéchiel, au chapitre 47? Il nous dit que de ce temple jaillit un fleuve. Et donc, il y a cette idée aussi-là de vie, cette eau qui apporte la vie. Notre histoire, elle se passe près du puits de Jacob. Et d'après les recherches archéologiques, c'est un puits qui fait à peu près 42 mètres de profond et qui est creusé dans le calcaire. Et donc, si, je sais pas ce que quelqu'un était en Israël et l'a vu, ce puits. Ouais, voilà. Ouais, donc, voilà, il existe. Enfin, j'ai vu que les Samaritains et les Juifs étaient d'accord pour que ce soit le même. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on est plutôt sûr que ce soit celui-là. Et, en fait, c'est un terrain qui a été acheté par Jacob aux Amoréens après s'être réconcilié avec Ésaü. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, après être réconcilié avec Ésaü, Jacob a acheté un terrain. Vous trouvez ça dans Genèse 43 et il a construit un puits là-dessus. Et les Samaritains, c'est qui ça? Les Samaritains, c'est des Juifs un peu de seconde zone, si vous voulez. En fait, c'est les descendants du peuple d'Israël du Nord qui avaient fait beaucoup de mélanges avec les autres peuples. Et du coup, ils étaient mal considérés par les Juifs. C'était un peu les... Voilà, c'était des Juifs, mais bof, pas trop, en fait. Hein. Ils n'avaient pas bien compris ce qu'il fallait comprendre. Et la seule chose qui était importante pour eux, enfin, qui faisait foi, c'était le Pentateuque. Donc, les 5 premiers livres, ça, c'était OK. Par contre, ils reconnaissaient pas les autres livres. Et donc, cette histoire-là qu'on découvre ensemble, c'est l'histoire de cette Samaritaine qui est proche de cette histoire juive. Hein. Voilà, c'est pas un païen qui n'a aucune connaissance de Dieu. C'est des gens qui croyaient en Dieu et c'est des gens qui attendaient le Messie aussi. Et donc, voilà, on a cette Samaritaine avec toute cette histoire, ce rapport à l'eau aussi qu'elle a de son histoire, qui vient au puits vers midi car elle a soif. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif? Parce que l'enjeu, il est important, parce qu'il y a un danger mortel pour notre âme si on boit de l'eau qui ne désaltère pas. Je n'avais pas prévu de raconter cette histoire, mais je vais quand même le faire. Parce que, voilà. Est-ce que quelqu'un connaît le film « Idiocratie » ? Ah. Tu le conseilles ?
Non.
Non, ouais, on est d'accord. Alors voilà, c'est une collègue qui m'a parlé de ce film, donc je l'ai quand même regardé, j'avoue que j'ai regardé un peu en accéléré, je ne vous le conseille pas. Mais le principe est le suivant, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui est congelé, et il se réveille en 2500 et des brouettes, et en fait, c'est un gars normal, il est intelligent comme vous et moi, quoi. Et en fait, par contre, la Terre entière, ils sont devenus complètement bêtes, quoi, idiots. Voilà, donc je vous passe les détails de comment c'est une comédie à l'américaine, donc vous doutez que c'est exagéré. Mais ce qui m'a marqué, en fait, c'est que leur gros problème, c'est qu'il y a une famine. Et pourquoi il y a une famine? C'est parce qu'il y a une entreprise qui produit des boissons sportives, qui a acheté tout et qui a convaincu tout le monde qu'en fait, la seule bonne chose à faire, c'était de consommer cette boisson sportive. Et ils arrosent leurs champs avec cette boisson sportive. Et du coup, évidemment, toute la végétation meurt. Et donc, ce héros-là, il va devenir président des États-Unis, pardon, simplement en disant, ce serait bien que vous arrosiez avec de l'eau plutôt qu'avec une boisson sportive. Voilà, je vous passe les péripéties. Mais je trouvais ça tellement marquant quelque part cette idée que des fois, on s'abreuve. Voilà, on nous fait croire que cette boisson sportive, c'est elle qui va nous remplir, mais en fait, ça tue. Et ce qu'ils ont besoin, ces gens, c'est de l'eau, c'est de l'eau vive. Voilà. Est-ce que tu as soif et est-ce que tu te désaltères à la bonne eau? Je crois qu'on a tous besoin d'eau vive dans notre vie. Moi, j'ai besoin d'eau vive. J'ai besoin de quelque chose qui me donne de l'espoir, qui m'apaise, qui me ressource, qui me soulage dans cette vie. J'en vous parlais ce matin, tout ce qu'on entend, des bruits à l'extérieur, mais ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi en nous. Je crois qu'il y a plein de choses, plein de raisons qui font qu'on peut avoir soif. Plein de raisons qui font que notre cœur peut être sec. Parfois, la sécheresse, elle vient parce qu'on a raté quelque chose. Et on se sent nul. Moi, c'était mon cas vendredi. Vendredi, j'ai fait un truc, mais ça, c'était vraiment nul, quoi. Et du coup, après, je ne sais pas comment c'est pour vous. Moi, j'avais juste envie d'aller sous ma couette, de dire, OK, jusqu'à demain matin, je dors, je mets la couette jusqu'en haut, comme ça. Et puis voilà, je pense pas à ça. Et des fois, c'est des petites choses, mais quand ce qu'on a raté, ça se répète. Peut-être c'est des choses qu'on a ratées il y a longtemps, mais quelque part, ça nous pèse toujours et notre cœur, il est sec. Parfois, ce qui assèche notre cœur, c'est une vie familiale qui est difficile. Je me souviens à quelqu'un qui me disait, déjà le boulot, c'est difficile, mais je sais quand je rentre, c'est la guerre à la maison. Et l'endroit où je devais retrouver la paix, c'est là où c'est difficile encore. Et notre cœur, il est sec. Peut-être parce que tu peux aussi avoir le cœur sec parce que tu es déçu par Dieu. Parce que tu espérais un grand changement, finalement, tu dis, je confie ma vie à Dieu, j'espère que des grandes choses vont se passer dans ma vie, et puis ça ne se passe pas comme tu espères. Et du coup, tu préfères pas trop rêver, tu dis, ben, je préfère pas trop rêver de ce que Dieu pourrait faire parce que j'ai pas envie d'être déçu. Peut-être que ton cœur est sec parce que tu es en colère. En colère contre Dieu parce qu'il n'a pas empêché quelque chose de terrible qui t'arrive. Ou alors tu regardes le monde autour de nous, autour de toi, la guerre partout, le climat qui se dégrade, on parle d'éco-anxiété, voilà un nouveau mot aussi qui a été ajouté en dictionnaire en 2023, éco-anxiété, ça montre bien le symbole de notre temps. Et toute cette souffrance qui est autour de nous, des fois ça nous déconnecte de nous-mêmes. À la surface ça va, le dimanche matin ça va, mais on préfère pas s'arrêter parce qu'on a peur que si on s'arrête et qu'on regarde ce qui se passe dans notre cœur, ouais, on va voir quelque chose qui est sec. On a une amie du village qui partageait avec nous qu'elle veut pas s'arrêter. Elle doit toujours faire quelque chose. Elle disait, je sais pas ce qui va se passer si je m'arrête. Moi, je sais pas attendre à une caisse sans sortir mon téléphone. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais ou attendre à un endroit sans regarder son téléphone pour regarder je ne sais quelle information, moi je, France Info, voilà, je regarde encore les trucs. Quoi. Je ne peux pas m'empêcher, en fait. J'ai besoin de remplir ce vide parce que j'ai peut-être peur de retrouver quelque chose qui est sec. Et parfois, la sécheresse, vous savez, elle arrive petit à petit. Ce n'est pas forcément un événement tout d'un coup qui a cassé quelque chose, mais on a construit notre vie chrétienne sur une expérience. Voilà. J'ai vécu tel événement, tel rassemblement de jeunes, tel moment fort dans ma vie, et c'est ça j'ai construit ma vie là-dessus. Et puis petit à petit, ça perd un peu de sa saveur. Cette expérience forte avec Dieu, elle est lointaine, et ça devient de plus en plus fade. Et quand on regarde notre cœur, on a l'impression que c'est plus un gazon desséché. Je n'allais pas dire que c'est un désert, parce qu'on voit quand même qu'il y a un petit peu d'herbe, il y a quand même quelques fleurs, mais c'est pas le beau jardin luxuriant qu'on voudrait voir. Et en pensant à tout ça, tu dis, ouais, je prendrais bien un petit peu de cette vie abondante dont parle Jésus. Je voudrais bien juste tremper un petit peu mes lèvres dans cette source d'eau vive. Le problème de notre Samaritaine, c'est qu'elle avait soif, comme chacun d'entre nous. Mais elle s'est construit un petit monde pour se tenir à l'écart de Jésus, à l'écart de Dieu. Et Jésus, justement, c'est toute la beauté de ce texte, il va rentrer en dialogue avec elle et avec sagesse, il va secouer un petit peu tout ce qu'elle s'est construit et qu'il écarte de Dieu. Et il va l'amener à la vraie liberté. Et je voudrais voir avec vous quelques éléments qu'on trouve dans ce texte qui sont pour moi des éléments de cette forteresse qu'elle s'est construite et que des fois on se construit nous-mêmes aussi pour nous protéger, pour ne pas risquer quelquefois, on a peur de peut-être l'inconnu, de laisser aussi Dieu agir dans certains endroits. La première chose qu'elle fait, cette Samaritaine, c'est qu'elle évite les autres. Si elle vient à midi, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus d'eau pour le repas. Hein. Parce qu'en général, les gens ne venaient pas à midi. À midi, il faisait beaucoup trop chaud. Donc on venait soit le matin, soit le soir. Donc si elle vient à midi, c'est qu'elle ne voulait pas voir les autres. Elle espérait rencontrer personne. Bon, manque de peau, il y a Jésus qui l'attend. Mais vous voyez, et on va voir, vous avez entendu son histoire, voilà, forcément il y avait la honte aussi. Elle se mettait à l'écart des autres pour pas peut-être entendre les ragots, « Ah, regardez, c'est cette personne-là qui arrive au puits. » Parfois, nous, on fait ça aussi. On évite les autres. On ne les laisse pas rentrer dans notre intimité. Je suis étonné souvent, je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu peux dire comment tu vas vraiment ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu peux dire comment tu vas vraiment ? Ou tu vas être honnête avec tes combats, tes difficultés, ton cœur qui est sec parfois. Et je discute avec plusieurs amis et puis la réponse, c'est pas immédiat. On ne dit pas, ah, tiens, je pourrais parler à cette personne-là. Est-ce qu'on laisse les personnes entrer dans notre intimité ? Et les hommes, c'est encore pire, je dirais, que les femmes. Hein. Bon, alors peut-être je ne veux pas trop caricaturer ça, mais... Voilà, en tout cas, des fois, quand je discute avec les gars, je trouve que d'oser ouvrir, voilà, comment ça se passe à l'intérieur, c'est pas notre plus grande force. Quand on se coupe des autres, on prend le risque de se faire nos propres films, de se construire sa propre idée de ce qu'on devrait être. Et finalement, c'est ce qui nous isole encore plus des autres. Comme cette femme maritaine, voilà. Je me mets en dehors des autres, comme ça, je suis sûr que personne va bousculer là où j'en suis. Une deuxième pierre, j'aurais dû passer mon slide après, voilà, derrière nos murs. Une deuxième pierre que cette Samaritaine, elle s'est construite, et qui nous ressemble parfois, c'est qu'elle se dit finalement, elle n'est pas si mal. Parce que cette Samaritaine, elle est où ? Elle est à côté du puits de Jacob. C'est pas mal, elle est à côté de l'eau finalement. Sur une terre de Jacob. Jacob, c'est un patriarche important. C'est quelqu'un qui a été dans le début du peuple que Dieu a choisi. Je ne suis pas trop loin de l'eau, ça devrait suffire. Je suis dans un environnement chrétien. Je vais régulièrement à l'église, je bois mon verre d'eau toutes les semaines, ça devrait être bon. J'écoute tel prédicateur, voilà, j'entends un prédicateur, ah je sais que celui-là il est bien, je l'écoute, je prends tous ses podcasts, je l'écoute. Je suis tel groupe de louanges. Mais parfois cette couche chrétienne, elle nous éloigne de Dieu. Parce que c'est comme des cases qu'on coche pour se rassurer. Ah ouais, voilà, c'est bon, je suis pas loin du puits de Jacob, donc c'est bon. On peut se baigner dans l'eau, mais si on ne la boit pas, alors on va quand même mourir. Une autre pierre que notre Samaritaine s'est construite et qui nous ressemble, qui me ressemble tellement parfois, peut-être pour moi c'est une des choses les plus importantes, dans ma vie en tout cas, c'est que dans notre soif, on cherche des mauvais moyens. Vous savez, comme ce film-là où ils utilisent une boisson sportive pour boire. On ne connaît pas trop l'histoire de la Samaritaine. On sait qu'elle a eu 5 maris et que celle avec laquelle il vit, ce n'est pas son mari. Et on ne sait pas pourquoi elle a eu 5 maris. Peut-être qu'ils sont morts. Certains commentateurs disent peut-être qu'elle était stérile. Et à cette époque-là, ben, voilà, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, ben, ce n'est pas possible. Donc, voilà, peut-être que ses maris l'ont rejetée. Peut-être c'est elle aussi qui était responsable. C'est peut-être elle qui est partie, on ne sait pas. Mais vous pouvez imaginer quand même la détresse de cette personne. Imaginez 5 maris. Et celui avec lequel elle vit aujourd'hui, ce n'est pas son mari. Imaginez la honte, imaginez le poids de cette histoire-là, de toutes ces relations qu'elle a construites qui sont brisées. Et on arrive le mari avec lequel elle vit, enfin l'homme avec lequel elle vit, ce n'est pas son mari. Elle a abandonné quelque part l'idée de construire une relation durable. Et peut-être qu'elle a cherché justement la réponse à sa soif dans les relations avec les hommes. Mais 5 maris plus tard, son cœur est toujours aussi sec. Et je trouve ça magnifique que Jésus, il ouvre le sujet. Et il va lui poser la question. Il est où ton ? Ramène ton mari. Parce que Jésus, il ne veut pas rester à la surface des choses. Il ne veut pas juste dire, ah ouais, tu viens prendre de l'eau, ok, je prends de l'eau, après hop, et tu repars. Et puis on n'a pas regardé vraiment c'est quoi le problème qu'il y a au fond. Parfois, comme la Samaritaine, on met tout notre espoir dans certaines choses. On met tout notre espoir dans notre travail, dans notre famille, dans la bonne éducation qu'on va donner à nos enfants, dans cette relation avec cet homme ou cette femme. Voilà, si seulement il pouvait m'aimer en retour, et puis on place tout notre espoir dans cette relation-là. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais si on pense qu'elles vont, elles vont nous aider à ne plus avoir soif, on se trompe. Bien, alors, je connais plusieurs chrétiens avec qui j'ai discuté aussi qui ont fait des burn-out. Alors, je ne veux pas faire de raccourcis trop simplistes, et voilà, chaque histoire est différente, il y a forcément des circonstances qui sont difficiles et qui amènent à ça. Mais je crois que dans chacune de ces histoires, il y a quelque part aussi ce facteur-là qu'on s'est abreuvé à la mauvaise source dans notre vie. Parce qu'on se retrouve sec, assoiffé. Parfois même l'Église, hein, c'est une source qui ne désaltère pas. Combien il y a de pasteurs qui font des burn-out, hein, parce que voilà, l'Église, c'est aussi une source qui ne désaltère pas. Parfois c'est un péché caché. Parce que cette femme samaritaine, voilà, elle savait, hein, quand elle dit l'homme avec qui je vis, ce n'est pas mon mari, elle sait que ce n'est pas dans les clous. Ce n'est pas le plan de Dieu, elle le sait ça. Elle ne le cache pas. Et parfois, une brique dans notre relation avec Dieu, c'est un péché. Un péché qu'on ne veut pas lâcher. Un péché qu'on a mis entre Dieu et nous. La pornographie, c'est une addiction, n'en parle peut-être pas souvent, mais les statistiques, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un homme sur deux ou un homme sur trois. Enfin, c'est juste énorme. Hein. Et ça, ouais, c'est difficile d'en parler, donc forcément. Et ça, c'est, ça nous bloque. Hein. Ça bloque notre relation. Alors, ça bloque déjà notre relation. Enfin, ça la détruit avec les femmes, mais ça détruit aussi avec Dieu. Voilà un exemple d'un péché qui nous bloque, mais il y en a d'autres, l'amertume. Alors, quelque chose qui s'est mal passé dans l'église avec quelqu'un, peu importe. Et ça, c'est un péché aussi. Hein. On garde la colère et on ne laisse pas Dieu agir, on le laisse à part de ça. La médisance, le mensonge, voilà, tous ces genres de péchés aussi qui nous bloquent avec Dieu. Et une dernière tactique, vous voyez que la Samaritaine, elle s'est fait un beau mur. Hein. Et nous, on peut s'en faire des beaux aussi. La dernière tactique que la Samaritaine utilise, c'est qu'elle essaie de dévier le sujet. Quand Jésus lui dit, tu as eu 5 maris, puis celui avec lequel tu vis, c'est pas ton mari. Elle pose une question, elle dit, je sais, on doit adorer où ? Est-ce qu'on doit adorer à Jérusalem ou est-ce qu'on doit adorer sur cette montagne-là ? Et des fois, on utilise des questions comme ça, on dit, tant que j'ai pas la réponse, tant que j'ai pas compris, je laisse Dieu en dehors de ça. Tant que j'ai pas une réponse claire de Dieu, tant que je comprends pas, je fais pas. Alors, je dis pas qu'il faut pas essayer de comprendre, hein. Moi, je crois vraiment que la foi, on peut en discuter, elle peut faire face à toutes les philosophies du monde sans problème, et ouais, c'est pas une question d'avoir peur de discuter de ça. Mais des fois, on utilise notre réflexion comme une raison pour ne pas laisser Dieu nous transformer. On manipule les concepts religieux comme des concepts justement extérieurs à nous, au lieu de regarder quelque chose qui va transformer notre cœur. Et c'est ça qu'elle fait la Samaritaine. Elle repose une question théologique, un peu qui est la tarte à la crème depuis des années entre les Samaritains et les Juifs pour empêcher Jésus de regarder. Mais c'est ce qui est important, c'est ce que tu changes là. Bon, Jésus, il ne se fait pas avoir, hein, vous voyez, il va lui dire, mais ce qui est important, ce n'est pas ça, c'est l'attitude que tu as dans ton cœur. Quand j'étais à Strasbourg au lycée, j'ai participé à un groupe, un espèce de GBU, donc un groupe de biblique, qui était organisé par les catholiques. Alors, aucun raccourci sur les catholiques, hein, pour moi, je connais des catholiques qui sont nés de nouveau, donc ce n'est pas ça le sujet, mais en tout cas, dans ce groupe-là, on avait des très beaux discours. On parlait de la foi, on parlait de la Bible, on parlait de... Voilà. Mais c'était extérieur à nous-mêmes. C'était vraiment... On manipulait des concepts religieux, philosophiques, théologiques, mais sans jamais se dire « Mais qu'est-ce que ça change pour moi ?» Et voilà, je crois que ça peut nous arriver à tous, comme cette Samaritaine, à nous construire un mur avec tous ces différents éléments que j'ai cités. Des fois, c'est un petit mur, des fois, c'est un gros mur qui nous éloigne de Dieu, et on n'ose pas regarder à notre cœur parce qu'on a peur de le trouver sec. Et voilà notre Samaritaine qui arrive avec tout ce mur, tous ces bagages, tout ce qu'elle s'est construit. Elle arrive sous la chaleur écrasante du soleil de midi. Et peut-être c'est ton cas aussi ce matin. Peut-être que ce matin aussi, même s'il fait moins 5 dehors, t'as soif. Il fait chaud dans ton cœur. Tu es asséché. La bonne nouvelle, c'est ça évidemment le plus beau dans ce passage, juste incroyable. La bonne nouvelle, c'est que peu importe où tu es, où tu en es, Jésus, il veut te rencontrer. Jésus, il veut te rencontrer et il veut te donner une eau vive. Si tu cherches de l'espoir pour ta vie, si tu cherches des réponses à tes questions, il est là devant toi, Jésus. Et c'est exactement pour donner cette espérance, c'est exactement pour détruire toute cette muraille qu'elle s'est construite que Jésus l'attend, la Samaritaine, sur le bord du puits. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si tout d'un coup il était fatigué, il s'est mis là, les disciples n'étaient pas là. Jésus avait un rendez-vous avec la Samaritaine. Jésus, il t'attend et il est prêt à casser ta forteresse brique par brique pour atteindre ton cœur et te donner l'eau vive. Face à la solitude de la Samaritaine, il est là, sur le puits, sur le bord du puits, il l'attend. Face à sa honte, il ose renverser les conventions sociales de l'époque, il lui parle et il l'accueille. face à sa vision limitée des choses, il lui montre une perspective beaucoup plus large. Face à sa perte d'espoir, il lui parle d'eau vive. Face à son péché, il la confronte avec douceur. Face à sa tentative de rester en surface, il cherche son cœur. Face à sa tentation de chercher ailleurs, il lui affirme qu'il est le Messie. Dieu est la source d'eau vive. Ce n'est pas une source d'eau que tu trouveras en toi-même, ni dans tes circonstances de vie. Seul Dieu peut te désaltérer. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que la Samaritaine, elle sait que le Messie est la solution. J'ai trouvé ça magnifique dans ce texte à la fin. Parce que voilà, Jésus la questionne, et puis on sent que ça la bouscule, elle ne sait plus trop, et puis elle dit, je sais que quand le Messie viendra, il aura toutes les réponses. Et nous, plus de 2000 ans plus tard, on sait qui est le Messie. On sait qu'il est venu, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité. Est-ce qu'on a la même conviction de cette Samaritaine ? Est-ce qu'on est convaincu aussi que Jésus est la réponse ? Moi, je crois qu'on a besoin de reparamétrer notre cerveau pour ne pas se laisser convaincre qu'il y a quelque chose d'autre que Jésus qui va nous combler. Et dans cette société dans laquelle on vit actuellement, ça demande un grand discernement. Parce que le monde, il cherche à nous attirer, en fait, à nous donner plein d'autres raisons que Jésus, plein d'autres solutions que Jésus. Le fondateur de Netflix, il a dit, mon plus grand concurrent, vous savez c'est quoi le plus grand concurrent de Netflix ? Hein ? Il a dit le sommeil. Vous voyez l'idée ? Alors, c'est à la fois rigolo et à la fois terrible, mais... Le fondateur de Netflix a dit « Mon plus gros concurrent, c'est le sommeil. » Vous voyez la guerre de l'attention en fait, qui se passe. Hein. L'objectif, c'est d'avoir notre attention. Les réseaux sociaux sont construits de manière à capturer notre attention. Il y a des algorithmes qui sont là pour nous proposer un contenu qui nous intéresse. Et je ne fais pas le réac en disant ça. Je veux dire, même des gens du séculier hein, vont rendre attentifs à ça. En fait, c'est construit de telle manière à ce qu'ils ont notre attention. On a le monde entier dans notre poche avec notre smartphone et on serait naïf de croire que ce qu'on consomme à travers notre smartphone, que ce soit les réseaux sociaux, les informations, les webtoons, je crois que ça s'appelle, les BD voilà, qu'on a, on serait naïf de croire que ça n'influence pas notre manière de voir le monde. Est-ce que je crois vraiment que Dieu a plus de saveur que ce dernier épisode Netflix ? Ça part, on me dit... C'est bête comme question. Non, mais est-ce qu'au moment où tu dois choisir sur épisode suivant, est-ce que tu dis, mais est-ce que ça a plus de valeur, ça, que Dieu ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder Netflix, hein, mais je pose la question. Comment ça se passe dans mon cerveau, là ? Est-ce que je crois que ma valeur se trouve en Dieu et non dans ma réussite au travail ? Pareil, on peut donner une réponse facile. Bah oui, bien sûr. Ah, mais quand il y a des promotions, quand le travail me demande du temps, plus de temps, est-ce que ma valeur se trouve en Dieu et non dans ma réussite au travail ? Est-ce que je crois vraiment que je suis aimé au-delà de toute espérance par Dieu, même si mes enfants et mes conjoints me donnent pas l'amour et mon conjoint me donne pas l'amour que j'attendrais d'eux ? Est-ce que je crois vraiment que ma réussite dans la vie ne se mesure pas à la réussite de tel ou tel examen ? Car Jésus a passé déjà l'examen final pour moi. Verset 14, Jésus dit ça. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de boire cette eau et de ne plus jamais avoir soif. J'ai envie de voir cette eau que je reçois déborder et être une source de vie pour d'autres. J'ai pas envie de me laisser enfermer par ma propre forteresse. J'ai pas envie de me laisser abasourdir par ce monde. Mais j'ai envie de regarder à Jésus et de m'associer à la Samaritaine qui dit « Seigneur, donne-moi cette eau. Alors, je n'aurai plus jamais soif. » Le passage qui suit, vous pouvez le lire aussi dans Jean 4, où Jésus va encore discuter avec ses disciples et il va dire « En fait, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour dire à des personnes comme la Samaritaine, je peux apporter l'eau vive. » Si Jésus est venu sur terre, on est en train de se préparer à Noël, c'est pour ça. Il est venu pour que chacun d'entre nous, dans chacun de nos cœurs secs, dans chacune des pierres qu'on s'est construites pour mettre Dieu à l'écart, il est venu pour nous apporter l'eau vive. Est-ce qu'on peut répondre peut-être à, comme la Samaritaine, « Seigneur, donne-moi cette eau, je n'aurai plus soif. » Je vais prier encore. Et après, est-ce qu'on peut peut-être chanter le chant sur les fardeaux là, que vous en chantez tout à l'heure ? Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces fois où j'ai cherché de l'eau ailleurs qu'en toi. C'est pas, des fois, c'est des grosses erreurs, mais des fois, des grosses gaffes, mais des fois, c'est aussi des choix du quotidien où je préfère à faire d'autres choses que regarder à toi, où je crois même que d'autres choses vont plus me satisfaire que toi. Mais je vois par expérience aussi que ça me laisse vide. Merci pour cette merveilleuse espérance que tu nous donnes. Merci parce que c'est toi l'eau vive. Merci parce que tu nous attends, merci parce que tu nous cherches, que tu nous bouscules, que tu ne nous laisses pas juste nous enfermer, mais que tu viens vers nous. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs ce matin. Je te prie pour tous ceux qui se sentent secs. Seigneur, je te prie que tu arroses leur jardin de ton eau vive et qu'ils puissent, que ça puisse les restaurer, que ça puisse les encourager et qu'ils puissent être un témoin aussi de cette... que ce soit à ta gloire, Seigneur, qu'en voyant comment toi tu transformes, toute gloire te soit rendue, Seigneur. Merci. Amen.